marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Des émissions qui font un effort de pédagogie pour expliquer le modèle citoyen français en invitant des Suisses.
La Suisse championne de la démocratie directe.
Et si l'État français s'inspirait du modèle suisse en adoptant certains des outils de la démocratie directe?
C'est pas souvent que nos amis français s'intéressent un peu à nous et au fonctionnement de nos institutions. On ne va pas bouder notre plaisir.
La Confédération helvétique occupe une place unique dans le monde. Elle serait une démocratie référendaire. Il ne se passe pas une semaine sans que, quelque part dans le pays, ne surgisse un projet d'initiative populaire ou de référendum. S'il aboutit, il est soumis au peuple lors d'une votation, le plus souvent en compagnie d'autres. Hier dimanche, les électeurs du canton de Genève avaient ainsi à se prononcer sur deux textes d'initiative populaire relatifs aux soins dentaires et à l'assurance maladie, et ils devaient accepter ou non une loi sur la laïcité votée le printemps dernier par le Grand Conseil, l'Assemblée législative du canton. On comprend pourquoi les partisans français de la démocratie directe sont séduits par l'exemple suisse, mais il n'est pas facile à suivre tant les différences sont fortes entre nos deux pays. Un exemple. En France, l'hypothèse a été formulée d'un référendum dont les questions multiples seraient issues de la restitution des milliers de réunions du grand débat à travers le pays. Cette consultation peut difficilement être présentée comme étant issue du modèle suisse. En Suisse, la pratique du référendum est de pratique courante et installée. En France, il est peu utilisé, limité juridiquement. Un référendum à questions multiples, puisé qui plus est dans un débat qui s'est tenu hors de tout cadre traditionnel et stable, serait un objet juridique et non identifié. Alors qu'en Suisse, les solutions ont été rodées par le temps. Le temps, c'est peut-être sa perception qui fait toute la différence. Les Suisses sont enclins à penser que l'intelligence collective passe par le temps qui apaise les passions et installe un esprit coopératif. Et ils s'étonnent de la frénésie qui saisit soudain des Français habitués généralement à déléguer largement leurs responsabilités civiques.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Jacques Pilet, bonjour.
Bonjour.
Père fondateur du Temps, du grand quotidien suisse roman de l'Hebdo à Lausanne, et puis dans Bon pour la tête, un site dont vous êtes un des animateurs. Je vous ai lu, un peu ironique justement devant cette frénésie que vous observez chez nous, parce que vous avez été voir tel ou tel débat dans le 13e arrondissement par exemple à Paris.
Oui, tous les Suisses sont stupéfaits de voir l'intérêt soudain que ce pays porte au nôtre et à ses institutions. Évidemment, on est assez frappé par une certaine ignorance, évidemment, et on saurait vous en faire grief. Mais évidemment, la démocratie directe en Suisse n'empêche pas que nous restions une démocratie parlementaire. Et la démocratie directe, le référendum initiative, viennent en complément du travail du
Parlement. Chambres. Parce qu'il y a deux chambres chez vous.
Il y a deux chambres au niveau fédéral, effectivement, le Conseil national, proportionnel à la population, et le Conseil des États, où chaque canton a deux délégués.
Alors dites-moi, il y a deux formes de démocratie directe, aussi l'initiative et le référendum, qui n'ont pas été inscrites dans les textes constitutionnels suisses, à la même époque du 19e siècle.
Oui, d'abord la question de la démocratie directe a parcouru tout le 19e siècle. C'était un sujet d'âpre débat dans ce pays qui est beaucoup moins paisible qu'on ne l'imagine de l'extérieur. Effectivement, il y a deux instruments. Il y a l'instrument du référendum qui a été adopté avec la constitution moderne de la Suisse de 1848. Qu'est-ce que c'est qu'un référendum ? C'est la possibilité de refuser, accepter ou de refuser une loi qui était élaborée par le Parlement et le gouvernement. Et cette consultation, elle est organisée soit par le gouvernement lui-même, pour qu'il veut savoir si la loi passe effectivement, par obligation, lorsqu'il modifie la Constitution, ou bien alors sur la base de la requête des citoyens eux-mêmes. Il faut 50 000 signatures pour obtenir cette épreuve de vérité, cette acceptation, l'initiative, c'est quelque chose de différent. L'initiative, c'est une proposition de modifier la Constitution. Alors ça, c'est à la fin du XIXe siècle que ce principe a été adopté, après encore une fois d'âpres combats. Et alors là, lorsque le peuple trouve 100 000 signatures, on lui demande s'il accepte ou non la proposition qui est faite. Ensuite, il faut bien voir que l'article ainsi proposé, il est mouliné, je dirais, par le Parlement, parce qu'il faut à ce moment-là une loi d'application.
On y viendra, parce qu'on n'en est pas encore au moment de l'application, mais de la collecte des avis qui permettent de lancer une initiative ou un référendum. Alors, cette démarche âprement discutée au XIXe siècle était éclairée évidemment par les enjeux nés des révolutions de la fin du XVIIIe, de la Révolution française notamment, mais les Suisses aiment à dire, du moins les Suisses alémaniques, peut-être plus que les romans, que la tradition était ainsi retrouvée. La tradition dans certains cantons de primitif de la première Suisse, elle était celle du vote à main levée, comme à Glaris, qui est devenu une sorte d'objet de tourisme politique.
Depuis 600 ans, la tradition est immuable. Les autorités, la population de Glaris réunit toujours au même endroit pour ceci. La plus ancienne manifestation démocratique du pays, la Landsgemeinde. Une assemblée archaïque, mais dont les décisions ces dernières années ont souvent été pionnières. Fusion de communes, droit de vote à 16 ans, des majorités parfois très courtes et qui ont créé des surprises. Au point que dans l'Assemblée, un homme aimerait une révolution, introduire le vote par les urnes dans les cas litigieux.
Je fais cette proposition parce que souvent la majorité est très peu claire et le Landamman ne peut pas vraiment dire qui a gagné.
Alors dans cette assemblée, si je comprends bien, à Glaris, on a voté à main levée pour refuser l'installation d'urnes.
Exactement.
Mais alors, ceux qui sont curieux de toutes les formes de la démocratie directe vont se demander si, en Suisse, il n'y a pas eu aussi des expériences de tirage au sort, dans les temps peut-être reculés ?
Oui, déjà sous l'Ancien Régime, certaines villes, Berne, Neuchâtel, Zurich, on a introduit le tirage au sort, mais évidemment entre gens déjà bien sélectionnés, c'est-à-dire en fait c'était les familles patriciennes qui ne pouvaient pas toutes siéger au gouvernement et on tirait au sort qui avait droit au pouvoir. Mais ce qui est frappant, on vient d'entendre ce son sur Glaris, ce qui est frappant, c'est de voir que la démocratie directe, au fond, en Suisse, elle se nourrit de deux sources différentes. La vieille tradition de la Landsgemeinde. Qu'est-ce que c'est qu'une Landsgemeinde? C'est une assemblée sur la place du village où on vote à main levée. Alors ça s'est fait au niveau du village, au niveau de la commune ou au niveau du canton, c'est-à-dire du département. Et cette tradition, elle est ancrée donc depuis le Moyen-Âge. Elle restait étonnamment à travers les siècles. Et aujourd'hui
pôle...
encore, il y a deux cantons, Glaris et Appenzell Rhodes-Intérieur, où on se réunit une fois par année, au printemps, pour parler directement avec le gouvernement et pour approuver ou refuser des propositions. C'est évidemment très controversé, parce qu'il n'y a aucun secret du vote dans ce cas-là. Et puis alors les infirmes qui restent chez eux, ben, ils n'ont pas droit de vote. Donc c'est évidemment quelque chose d'assez archaïque.
Mais vous ne nous avez pas dit quel était l'autre pôle. Alors l'autre pôle, c'est celui issu de la réflexion des
Lumières. Alors l'autre pôle qui a alimenté cette idée de démocratie directe, eh bien ce pôle, il est français. Car à la Révolution française, eh bien, on a beaucoup parlé de la démocratie directe. Et là, je renvoie à Condorcet, n'est-ce pas, qui rédigeait une constitution girondine avec tout un chapitre qui s'appelait « De la censure du peuple sur les actes de la représentation nationale et du droit de pétition ». Et Condorcet était allé très loin dans le mécanisme qui pourrait permettre une démocratie directe. Il tenait au contrôle des élus par les citoyens, à la base, comme on dit aujourd'hui. Il tenait aussi à donner la possibilité aux simples citoyens de proposer de nouvelles lois. Quand on relit ces textes aujourd'hui, à la lumière des débats d'aujourd'hui en France, à la lumière de la réalité également encore discutée en Suisse, on est frappé par le sérieux, la lucidité, la profondeur de la réflexion de Condorcet. Alors il faut bien voir que à la fin du XVIIIe siècle, début du XIXe, il y avait des élites en Suisse qui étaient extrêmement intéressées par ce qui se passait à Paris. Et même si la Constitution girondine Girondine a été balayée, n'a jamais été appliquée, eh bien beaucoup de Suisses, en particulier des Suisses français, des Suisses romands, disaient qu'il fallait s'en inspirer. Alors on a cela, la modernité révolutionnaire, si vous voulez, de la fin du 18e, et puis la tradition ancrée dans les villages, dans les montagnes, dans les vallées du Moyen-Âge.
Alors voyons comment l'initiative qui nécessite 100 000 signatures s'est déployée vers l'avenir et s'est tournée. Vous parliez de la transformation de la Constitution qui était à la base de l'initiative, qui s'est tournée vers les questions sociales ou les questions sociétales. 1922, une initiative pour une imposition extraordinaire sur la fortune est recalée par 89% des voix. 1984, une initiative contre l'abus du secret bancaire est rejetée par 73% des votants. Et vous allez me dire que l'exemple que je prends est un peu anecdotique, mais jamais les Français ne se seraient comportés comme les Suisses en 2012 à propos d'une éventuelle extension des congés payés.
En 2012, alors qu'ils n'ont que 4 semaines de vacances, ils ont dit non à 2 semaines de congés payés supplémentaires.
J'ai voté non.
Pourquoi ?
Alors, vous savez, on vit en symbiose complètement avec la France ici à Genève. On entend tellement parler des 35 heures, que c'est le marasme, c'est tout. J'étais sûre que les Suisses allaient voter contre.
On a tout intérêt à travailler davantage. Ça créerait aussi du travail et j'ai beaucoup de peine à comprendre que les Français aient tellement envie de vacances, de repos et de congés.
Je vais vous dire, Jacques Pilet, vous n'allez pas pouvoir faire passer le cas suisse pour un modèle parce qu'y interviennent trop les groupes de pression. Je pense à l'économie suisse, la structure fêtière du patronat français, qui était évidemment hostile à toutes ces brèches qu'on cherchait à ouvrir.
Bien sûr, les groupes de pression sont très importants, très puissants. Certains partis également qui prennent position dans de tels débats sont très puissants, et je pense en particulier à celui de Christophe Blocher. Mais il y a, c'est vrai, chez les Suisses, une sorte de réalisme, de pragmatisme, et on se méfie des solutions toutes faites, 2 semaines en vacances, 2 vacances en plus, comme ça, pour tout le monde, c'est peut-être trop. Mais il faut dire aussi que les syndicats combattent, obtiennent des conventions collectives, et une grande partie des travailleurs aujourd'hui ont au moins 5 semaines de vacances.
Mais le droit des femmes, est-ce qu'il a progressé aussi vite qu'il l'aurait dû en Suisse ? Et est-ce que les canaux de circulation que représentent entre le peuple et les élus, les initiatives et les référendums, ne peuvent pas être dans ce domaine des moyens d'obstruction ?
Oui, alors le droit de vote des femmes, par exemple, était très lent, n'est-ce pas, à arriver. Il a fallu plusieurs votes. D'ailleurs, c'est intéressant parce que on entend la discussion du Brexit. Une fois qu'on a voté, c'est définitif, on ne peut plus revoter. Eh bien, dans le cas du droit de vote des femmes, il a fallu revoter parce que voilà, il n'y avait pas de majorité pour cela. Il a fallu même l'imposer par la Confédération à certains cantons qui ont voté plusieurs fois et toujours dit non. Les cantons les plus conservateurs, précisément. Les cantons où l'on vote à main levée sur la place du village.
Vous voulez dire des cantons alémaniques. Est-ce que les romans ne seraient pas un peu moins partisans de la démocratie directe que les cantons alémaniques?
Le canton de Vaud a été le premier canton à donner le droit de vote aux femmes. Et on fête cette année les 60 ans du droit de vote des femmes dans le canton de Vaud.
Vous avez cité le nom de Christophe Blocher, c'est le leader de l'Union démocratique du centre, il faut traduire centre par extrême droite. Et écoutez-le, il est à l'initiative de beaucoup de référendums dans ces dernières années et il fait un lien très direct entre la démocratie directe, qu'il juge comme une tradition très ancienne de la Suisse, et le refus des accords internationaux qui pourraient dompter la spécificité de la Confédération.
Moi, je trouve mes idées, surtout mes idées sur l'indépendance de la Suisse, qu'on n'entre pas dans l'Union européenne. On voit à présent les choses et les grands problèmes qu'on a avec la libre circulation des personnes, Schengen, Dublin, etc., ils ne fonctionnent pas.
und der Gotthard oben, das Monument,
le Gotthard,
vom Widerstand und der Selbstständigkeit,
ce monument de la résistance et de l'indépendance doit nous servir de lieu de mémoire,
und Denkmal gleichzeitig,
mais aussi d'emblème,
lieben wir uns selber,
restons nous-mêmes,
und tun wir nicht das unterwandern, was unsere Stärke ist.
Et ne dévalorisons pas ce qui fait notre force. Voyez, si la Suisse va aussi bien, c'est grâce à la démocratie directe et parce qu'elle n'est pas dans l'Union européenne.
Ça, ça nous intéresse, cette question, Jacques Pilet. Y a-t-il un lien entre l'exaltation de la démocratie directe et, en pratique, le refus des contraintes européennes ?
Il est vrai que dans la grande réticence de la Suisse à toute association avec l'Union européenne, il y a cette question, mais alors que devient la démocratie directe ? Qu'arrivera-t-il le jour où, par le référendum par exemple, nous refusons une disposition du contrat que nous aurions signé avec l'Union européenne ? Donc il est vrai qu'il y a là un point très, très sensible. Mais en même temps, je dirais que le vote populaire donnera une légitimité, j'espère, à toute forme d'association avec l'Union européenne, qui peut-être a fait défaut dans d'autres pays. Donc je pense qu'il faut convaincre, il faut expliquer, il faut admettre cette délégation d'une part de la souveraineté au nom des intérêts du pays, au nom de ses intérêts commerciaux, sociaux et humains. Et je pense que là, il y a tout un travail didactique qui doit se faire de la part des pro-européens. D'autant plus difficile qu'on a en face un géant médiatique qui est Christophe Blocher, qui possède des journaux, qui possède énormément d'argent et qui peut faire des campagnes tonitruantes.
Oui, mais dites-moi, c'est pas seulement les questions d'association sous une forme ou sous une autre, à l'Union européenne, qui peuvent être posées. Ce sont celles liées à la supériorité du droit international sur le droit suisse.
Tout à fait. La question se pose non seulement dans la relation avec l'Union européenne, mais également avec d'autres engagements que nous prenons, par exemple, par rapport à l'OCDE dans le domaine fiscal, par rapport à la Convention européenne des droits de l'homme. Qu'arriverait-il si, dans un accès de folie, le peuple acceptait une initiative réclamant le rétablissement de la peine de mort, par exemple?
Oh, un accès de folie, non. Vous savez bien que la démocratie directe forme à l'esprit coopératif et au frottement des esprits les uns sur les autres jusqu'à ce qu'ils soient lisses et paisibles.
C'est vrai. J'aimerais quand même dire que ce mécanisme que vous évoquez très rapidement est absolument central et capital. S'il y a la démocratie directe, c'est parce que nous avons beaucoup de conflits, de divergences entre nous à cause de nos langues différentes, de nos confessions différentes. Eh bien, pour surmonter ces différences, nous avons parfois besoin de trancher par un vote.
Vos langues différentes font le bonheur de Stéphane Escher, dont on attend un nouvel album dans les jours qui viennent et qui, sur des paroles de Philippe Jean, déjà chantait Taxi Europa dans les trois langues de la Confédération.
Et quel vers est parcouru, et quel but se diriger, jour après jour, nuit après nuit.
Sto capendo come è facile succhiare il dolce della vita.
Le hasard éclaire la route comme le sang éclaire nos vies.
Bin so lange unterwegs, bin so weit von mir entfernt. Helle Nächte, dunkle Tage.
Sto capendo come è facile succhiare il dolce della vita.
Le sang éclaire nos vies.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Référendum et initiative populaire en Suisse en compagnie de Jacques Pilet. Vous n'êtes pas habitant de la République de Genève, qui est l'autre nom traditionnel du canton de Genève, Jacques Pilet.
Non.
Donc, vous n'avez pas été appelé à la votation d'hier. Mais vous, à Montreux, que vous habitez, vous votez souvent, combien de fois par an?
Environ 4 fois, et j'ai voté hier, mais pour une affaire locale. Mais
qui était dans le canton?
Une affaire tout à fait locale, une affaire communale.
Ah, une et votation puis, communale à Montreux.
Voilà, et il y avait également hier aussi un vote sur une initiative constitutionnelle qui partit des Verts, qui voulait restreindre le droit d'étendre les villes, intitulée « Contre le mitage du territoire ».
Alors, dans le canton de Genève, il y avait une votation sur 3 sujets, 2 initiatives populaires, l'une sur les soins dentaires, l'autre sur les caisses d'assurance maladie et l'acceptation ou non d'une loi déjà votée par le Grand Conseil, le législatif du canton sur la laïcité. Participation, 43% comme d'hab.
C'est la moyenne, oui.
Ben, c'est pas mal.
Oui, c'est quand même un petit peu triste de penser que moins d'un électeur sur 2 se déplace pour une question aussi importante. Enfin, les abstentionnistes représentent le premier parti en Suisse.
Oui, mais vous avez vu le travail de réflexion que ça demande. Une brochure est envoyée à chaque électeur avec une synthèse brève et neutre, par exemple sur la loi sur la laïcité. Et puis ensuite des commentaires des autorités. Et puis, ceux qui sont porteurs du référendum, ceux qui ont demandé que la loi soit soumise à un vote, exposent leurs principes. Alors, ça fait beaucoup de lecture.
Oui, tous les objets doivent être ainsi présentés aux citoyens, avec le point de vue des uns et des autres.
Alors, d'un point de vue neutre, la loi sur la laïcité, elle réinscrit le principe de la neutralité religieuse de l'État et en tire des conséquences sur 3 ou 4 points.
Oui, alors...
Mais vous exposez, d'une manière neutre et brève. Oui, comme en Suisse, on sait faire.
Oui, il faut dire que dans le canton de Genève, il y a une séparation entre l'Église et l'État. Donc, au départ, l'État est laïque, mais il a été ressenti le besoin de préciser le contour de cette laïcité avec des droits égaux pour toutes les églises et toutes les mouvances religieuses.
Oui, il y en a peut-être 400 si on compte bien.
Voilà. Alors il y a des dispositions qui n'ont guère fait débat. Par exemple, il existe à Genève un impôt ecclésiastique ou impôt religieux. C'est un impôt que l'on accepte ou pas de payer. C'est un impôt volontaire. Alors le fruit de cet impôt qui allait jusqu'alors uniquement aux catholiques et aux protestants, eh bien il ira désormais aussi aux musulmans et aux juifs. Mais évidemment, il y avait des dispositions beaucoup plus controversées, notamment sur ce qui est des signes religieux que l'on peut afficher ou pas en public lorsqu'on est élu.
Et puis aussi sur les possibilités d'expression religieuse sur la voie publique, qu'on soit catholique, réformé, musulman, ou bien qu'on appartienne à une autre communauté. Ici, c'est après un micro-trottoir à Genève, effectué par Haute Fréquence, la RTS, la réaction d'un représentant du réseau évangélique.
S'il y a des fonctionnaires voilés ou qui portent la kippa ou une croix chrétienne, c'est embêtant.
Pas du tout. Enfin, je pense que c'est leur choix, c'est leur droit, donc voilà.
Même dans des rôles qui ont un contact avec le public, c'est là en général que la population des fois peut évoquer des gènes. Mais c'est en tout cas pas un problème pour moi. On a souvent parlé du rôle des enseignants, par exemple. Est-ce que ça pouvait gêner que les enseignants soient voilés ou pas? C'est pas du tout quelque chose qui me dérangerait, personnellement.
C'est des gens qui sont importés et qui veulent s'imposer. C'est ça qui me dérange. J'ai l'impression qu'ils veulent s'imposer. Alors, moi, quand je vais dans un pays, je m'adapte aux coutumes du pays. Puis fini, terminé.
Les articles 3 traitent de la neutralité des fonctionnaires, des représentants de l'État et même des élus dans les législatifs, et donc leur interdit dans certains cas de porter un signe religieux, voire même d'exprimer par des propos quelle est leur appartenance religieuse. Ça nous pose un problème. Par exemple, si vous avez un élu qui a un arrière-plan idéologique ou religieux, je pense que c'est dans l'intérêt des électeurs de le connaître, de pouvoir l'interroger là-dessus, de savoir d'où viennent ses valeurs et ses convictions, qui vont peut-être motiver une partie de son action politique. Donc c'est plutôt une question de transparence, je dirais, c'est même nécessaire. Et de créer un tabou, là, je pense que c'est pas utile, et c'est pas non plus conforme à l'esprit de Genève, ni à l'histoire de Genève. On est dans une cité, dans un canton qui a un historique, qui est même inscrit jusque dans ces armoiries, et quelque part c'est contradictoire d'avoir des armoiries qui ont des références chrétiennes d'un côté, et puis des élus qui représentent ce canton qui n'auraient pas le droit de dire quel est leur arrière-plan confessionnel. Ça, c'est quand même étonnant.
Michael Münzner, le représentant du réseau évangélique. Bah oui, parce que demander à un croyant de reléguer sa foi au privé, c'est refuser de comprendre ce qu'est sa foi, Jacques Pilet.
Je crois que ce n'est ni le texte, ni l'esprit de la loi. Et je n'ai pas me prononcer pour ou contre cette loi, mais cette loi n'interdit à personne d'avoir des convictions religieuses et de les défendre dans des débats de toutes sortes. Il y a cette question de l'affichage qui fait problème, mais je remarque tout de même que les églises chrétiennes qui ont soutenu ce texte sont tout de même très embarrassées et reconnaissent que la loi va trop loin sur certains plans. Et c'est pourquoi les perdants d'hier, mais aussi certaines personnes qui ont voté oui, souhaitent qu'on réexamine certaines dispositions, qu'on les précise, et cela sera fait par une cour constitutionnelle, une chambre constitutionnelle, ça c'est une particularité genevoise, tous les cantons ne l'ont pas, où les juges devront se déterminer.
Parce qu'un recours a déjà été déposé.
Il a déjà été déposé.
On n'a pas dit combien il y avait de oui. Alors, la recommandation du Grand Conseil, c'était de voter oui. La recommandation neutre de Jacques Pilet, on ne sait quelle elle était. Mais ça a été 55% de oui.
Oui. Évidemment, ça s'est passé sur le contexte que vous connaissez bien en France. C'est une crainte de l'islam. Il faut appeler les choses par leur nom. D'ailleurs, c'est un petit peu inquiétant de penser que cette inquiétude par rapport aux femmes voilées dans la rue, etc., elle ne se percevait qu'assez peu dans la société genevoise. Et au fond, c'est le débat provoqué par la loi et ensuite par la votation, qui a fait un peu monter les tensions.
Ah oui, donc la démocratie directe n'apaise pas toujours les passions.
Non, elle peut les susciter. Et il y a eu le cas, par exemple, du Tessin, de la Suisse italienne, où on a proposé l'interdiction de porter la burqa. Et alors, ça s'est beaucoup échauffé autour de ce thème. Et effectivement, au Tessin, on a interdit le port de la burqa. Et puis, depuis lors, eh bien, tout s'est calmé. D'abord, il y a très, très peu de femmes avec des burqas qui se promènent à Lugano. Et puis, on s'aperçoit que finalement, c'est la thématisation d'une préoccupation, lorsqu'elle est débattue dans le cadre d'une votation, peut parfois surchauffer le problème plutôt que l'apaiser.
Donc, c'est pas bon pour la tête. Je dis ça en référence au site que vous animez maintenant, Jacques Pilet, qui s'appelle Bon pour la tête et dont on trouvera la référence sur notre propre site. L'émission a été préparée par Ilinka Negulesco et Frédéric Martin à la réalisation, Valérie Aestaraï à la technique, Stéphane Bojat.